C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur, Paul Nizan, 1905-1940, romancier, français, hétérosexuel. Œuvre, Antoine Boyer, roman, 1933. Personnage, Antoine Boyer. Sur l'école normale supérieure, il existe un fantasme très répandu en ce moment. Ce fantasme, c'est que cette école serait de gauche. Et par école de gauche, il faut bien sûr entendre ultra-gauche, dangereuse, sectaire, visant à transformer ses élèves en autant de François Ruffin et Arlette Laguillier. Cette idée devient très comique si je dis ministre, Laurent Wauquiez, Bruno Le Maire, Alain Juppé, Alain Perfitte, tous diplômés de cette école. Professeur ou écrivain, René Raymond, Pierre Boutan, Jean d'Ormesson, Régis Debray, tous diplômés de cette école. Jusqu'à Georges Pompidou, président de la République, diplômé de cette école. Comme il était normalien, Pompidou ne pouvait pas passer sa rage contre la gauche sur l'école d'où il sortait, lui de droite, et a donc inventé dans un de ses livres, pour rétablir une vérité, que le poison de la gauche en France était diffusé par les facs de sociologie. Et bien sûr, comme la vie est plus variée que les maniaques ne le croient, je serais injuste si je ne signalais qu'ont aussi été diplômés de l'école normale Jaurès, Blum, Foucault, Derrida, Badiou, Sartre et Nizan. De droite ou de gauche, parmi tous ces noms, le meilleur écrivain de littérature, c'est Paul Nizan. Nizan, ce sont des essais partiaux, fatalistes et altiers, comme Aden Arabi, des romans naturalistes et généralisateurs comme La Conspiration. Un des héros de cette conspiration, comme d'ailleurs du roman précédent, Le Cheval de Troie, est un certain Bloyer. Et ce Bloyer, c'est le fils d'Antoine Bloyer, personnage principal du roman qui porte son nom. Et c'est ce fils qui raconte son père. Antoine Bloyer est un roman qui a passé le test du probable bon livre, à savoir qu'il a été attaqué et par l'extrême gauche et par l'extrême droite. Gringoire, l'hebdomadaire d'extrême droite des années 30, a attaqué le roman de Nizan sur le thème « Un Paul Bourget du marxisme ». Soit dit en passant, quand, en 1951, Jacques Laurent a publié le pamphlet « Paul et Jean-Paul » où il compare Sartre à Bourget, il n'a donc fait que reprendre une rengaine fasciste. L'autre attaque, communiste plutôt que d'extrême-gauche, si je dois être précis, est venue de l'Humanité, qui a reproché à Nizan d'avoir montré un héros démoralisant. Les communistes d'appareil, qui étaient si bêtes ou qui pariaient sur la bêtise des gens, ne pensaient pas qu'on pouvait comprendre par le contre-exemple. La vie d'Antoine Bloyer, cet homme qui est sorti de son milieu social et s'en est mal sorti, a été racontée par un romancier communiste et combatif. Combattu aussi, puisqu'il a été calomnié par le parti pour l'avoir quitté à cause du pacte germano-soviétique. Et c'est encore une saloperie à ajouter à la nombreuse liste de celles qu'a commises Louis Aragon que, après la guerre, il a jeté par terre d'un air méprisant les livres de Nizan exposés à une vente de charité du Comité national des écrivains. Qui est Antoine Bloyer? Pour en parler, je reçois Florence Desmouches, élève à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, comme l'avait été Nizan, comme le fils d'Antoine Bloyer, Pierre, qui raconte son histoire. Florence Desmouches, à quoi ressemble physiquement Antoine Bloyer?
Il est vrai qu'on n'a pas énormément d'informations sur le physique d'Antoine Bloyer. Il y a quelques indices qui nous permettent de déjà dire ceci. Il est plutôt de grande taille. 1m75, les cheveux un peu roux, des yeux bleus, un visage sanguin, nous dit-on, la lèvre supérieure cachée par une petite moustache blanche, jaunie par la nicotine, nous dit le narrateur, puisque Bloyer fumait, un très grand front, il avait une silhouette imposante, des bras musclés, grâce à ses travaux de jeunesse, ses travaux d'ouvrier. D'ailleurs, le narrateur nous dit qu'il était bâti comme un paysan. Et à la fin de sa vie, au milieu d'un paragraphe, on nous informe qu'il lui manquait la moitié de ses dents. Donc il est intéressant de remarquer déjà comment Nizan nous donne à voir un personnage marqué par les circonstances, par la vie, mais aussi marqué par sa vie intérieure, ses pensées, puisque au tout début du roman, et c'est là que nous avons un certain nombre d'informations sur le physique d'Antoine Bloyer, son fils, donc Pierre Bloyer, lui trouve une, je cite, une expression insoutenable de déception, de hauteur et de mépris. Je trouve que ces trois traits concentrent assez bien la vie d'Antoine Bloyer.
Alors Antoine Bloyer, il est né à la fin du Second Empire, en 1864, dans la Loire inférieure, qui est l'actuelle Loire-Atlantique, et c'est le fils d'un homme de la campagne qui est devenu employé des chemins de fer.
ces informations dans l'univers de Nizan sont très importantes puisque, comme on le voit par la suite, et comme vous l'avez justement rappelé dans l'introduction, tout le déterminisme, fatalisme très cher à Nizan, qui a énormément réfléchi là-dessus, et à mon sens, qui est une des meilleures réponses qu'on contre-argument que l'on pourrait apporter à la thèse sartrienne célèbre, qui consiste à dire que l'existence précède l'essence. Nizan montre dans tous ses romans, surtout dans Antoine Bloyer, comment l'essence précède l'existence, non seulement la précède, mais l'emprisonne, elle l'écrase, puisque cette ascension sociale que cherche Antoine Bloyer, ce déracinement, ne sera presque jamais parfait.
Enfin, on va y venir. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que d'abord, les choses changent puisque, par exemple, le fils d'Antoine Bloyer, qui devrait être déterminé par son père, ne l'est pas et devient autre chose. Donc, avant d'aller à l'interprétation, restons au fait. Cet Antoine Bloyer a donc un père qui s'appelle Jean-Pierre et qui vient, lui, donc, de la paysannerie, c'est ça?
Oui, employé de chemin de fer, il est facteur à la gare de l'Orléans. Les descriptions montrent comment il est perçu dans la ville, c'est-à-dire avec toujours un rapport de domination, les rapports de force au sein même de la société, qui s'applique également à la mère, qui est, disons, femme au foyer, femme de ménage, et à qui, dans la ville, on s'adresse à eux pour leur demander des services par lesquels passe toujours une forme de domination, une violence, ce qu'on a appelé plus tard une violence symbolique.
Et ce que veut probablement montrer aussi Nizan par le père d'Antoine Bloyer, c'est que il veut signifier une paysannerie qui, sous l'effet de l'industrialisation, va quitter les campagnes et perdre une forme de prééminence dans la société française.
Antoine Bloyer ne fait pas beaucoup d'expérience de la liberté, et ce, dès son plus jeune âge. Et je trouve que, justement, dans le choix de son métier, on le met très vite dans une certaine voie, sans vouloir faire de jeu de mots approximatif, d'une voie ferrée, puisqu'il est destiné à faire l'école des arts et métiers, puisqu'il est brillant.
Il n'est pas tout à fait destiné. D'ailleurs, la question des études est intéressante parce que, d'abord, il y a une chose amusante, c'est que l'épigraphe d'Antoine Bloyer, c'est un extrait de l'idéologie allemande de Marx, que Nizan n'a pas traduit, mais qui parle du désespoir par le travail. Et en fait, toute la vie de Bloyer se définit par le travail. Et pour commencer, il obtient une bourse d'études. Et ça, c'est intéressant parce qu'on lui laisse faire des études, mais son fils, qui raconte l'histoire, dit que ses études sont presque intentionnellement pas brillantes.
C'est l'expérience paradoxale de liberté, c'est-à-dire par le travail, il va y avoir une expérience de liberté, cette illusion finalement de devenir ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut, et en même temps, c'est ce qu'il explique, quand on a une vue plus large sur la société, c'est ce que c'est de faire Nizan, on se rend compte que cette illusion fait partie d'un grand engrenage pour mieux calmer certaines ardeurs, et en fait que tout est déjà tracé d'une certaine façon, et donc il y a cette ambivalence, cette dualité du travail qu'il ressent dès le plus jeune âge, notamment quand il reçoit des prix et qu'il voit cette audience où il y a des regards à la fois condescendants, méprisants et rarement admirateurs, comme ça devrait être le cas selon lui.
D'ailleurs, au moment où Antoine Bloyer reçoit un prix, c'est pas un élève très brillant, mais il a quelques bonnes notes, il reçoit un prix et on lui offre un livre qui est intitulé « Le devoir » de Jules Simon. Et je tiens à préciser que c'est un homme et un auteur qui existe, un auteur tout à fait de droite, qui date du Second Empire et qui était diplômé de l'ENS. Et Antoine lit la phrase suivante dans le livre qu'il reçoit pour prix « L'homme est libre ». Et ça, c'est une ironie terrible.
Absolument, d'autant plus que Sartre le raconte dans sa préface d'Aden Arabi, combien ils étaient opposés sur leur conception de la liberté et comment, et bien sûr, tout ça, Sartre s'en rend compte a posteriori et il en souffre énormément. Voir combien, quand Sartre disait que l'être humain est libre, qu'ils sont libres, que justement l'existence précède l'essence, que Nizan esquissait à peine un sourire, lui qui était d'une lucidité terrible, et déjà à son âge, et qui ont cette lucidité, c'est un, je dirais même glacial, que l'on retrouve dans ses romans, où il n'y a pas de... La liberté n'est qu'absence ou illusion, du moins.
Et d'ailleurs, Pierre, donc le narrateur du livre, commente cette phrase « L'homme est libre ». Son père, c'est-à-dire, parlant du père d'Antoine Bloyer, c'est à savoir son grand-père, le fameux ancien paysan dont nous avons parlé, son père est-il libre de ne pas être pauvre, de ne pas faire de service de nuit ?
Il y a cette très belle phrase dans Antoine Bloyer Le narrateur dit « Aussi longtemps que les hommes ne seront pas complets et libres, ils rêveront la nuit ». Il y a bien cette idée de rêve, justement. Antoine Bloyer rêve, d'ailleurs presque que dans la troisième partie, c'est-à-dire la chute, la descente aux enfers d'Antoine Bloyer. Et Sartre dit aussi que Paul Nizan était un rêveur, c'est-à-dire c'est ni complet ni libre, si toutefois on peut être l'un sans l'autre.
Alors, c'est un roman qui montre à l'arrière-plan la transformation industrielle de la France avec les chemins de fer. Et ça, c'est intéressant. Par exemple, au moment où Antoine Bloyer naît, dit son fils, il y a en France 150 000 usines et 1500 000 ouvriers. Et il rappelle aussi cette chose cocasse, mais qui veut dire bien autre chose que de la cocasserie, c'est que les évêques bénissaient les lignes de chemin de fer. Nouvelle.
L'ironie n'est jamais très loin dans la prose de Nizan. Et quand il s'agit de décrire les transformations, l'industrialisation de la France, l'ironie est très présente. Quand on voit toutes les espoirs d'une certaine façon qui étaient les transformations d'une ville qui d'un coup rêvait d'un statut nouveau plus qu'il ne l'a eu dans les faits, il y a énormément d'ironie et comment les machines ont pris une telle place qui tendait d'une certaine façon à effacer celle des hommes, et je pense que c'est un des messages aussi de Nizan par ce roman.
Alors tout ça, à l'époque, c'était des compagnies de chemin de fer privées, et elles l'étaient encore au moment où Nizan écrivait son livre, puisque les chemins de fer n'ont été nationalisés qu'à la Libération, et c'était des compagnies, les choses ont beaucoup changé maintenant, qui réglaient toute la carrière de leur employé. C'est-à-dire qu'on y entrait, en général, on n'en sortait pas. Et c'est ce qui arrive à Antoine Bloyer.
Absolument, et je trouve fascinant de voir la compagnie des chemins de fer, comment ils appellent ça la compagnie entre collègues, et comment c'est comme si ils étaient marqués au fer rouge par cet emploi qui, d'ailleurs, cette profession, ce métier devient d'une part leur raison de vivre, mais c'est aussi leur étiquette sociale, c'est-à-dire ils sont à la compagnie et ils restent entre eux et ils parlent comme cela de la compagnie, de la carrière. D'ailleurs le beau-père d'Antoine Bloyer, monsieur Guyadet, est aussi membre de la compagnie, qui est passé par la même école qu'Antoine Bloyer. Enfin il y a ce communautarisme presque de l'entreprise dans laquelle on reste et on vit même d'une certaine façon.
Alors en l'occurrence, elle s'appelle la Compagnie d'Orléans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où il y entre, Antoine Bloyer a une vague envie d'être libre, comme dans le livre de Jules Simon qu'il avait eu pour prix. Il voudrait partir en Angleterre. Et son père lui en empêche. C'est-à-dire que la première pression, en lui disant « on ne te reverra plus jamais », donc il ne part pas. Et ça veut dire que la première pression est familiale.
De cette façon, on rentre dans la structure du personnage qui est celle du dilemme, du tiraillement. D'ailleurs, ces mots reviennent dans le roman, du déchirement. On parle de Sartre dit de la guerre civile qui est en lui. À chaque fois, entre l'envie, le désir de voyage, l'envie de rester, l'envie d'ordre et de désordre, de révolte et d'ordre, c'est les d'être bourgeois ou de rester ouvrier d'une certaine façon, et à chaque fois ces alternatives sont incarnées par des personnages, notamment au niveau des femmes, puisque Marcel incarne cette frivolité et quand Anne Guyadet, sa future femme, incarne cet ordre qu'il finira par choisir à tort ou à raison.
Alors après son service militaire, il revient à la compagnie et il est nommé à Paris. Et il est nommé dans le 13e arrondissement, et c'est un passage très intéressant, car au fond, c'est un 13e qui n'a pas tellement changé autour du quartier chinois près. C'était un Paris, en revanche, qui était beaucoup plus immense que maintenant. Pierre Bloyer dit « on allait passer des vacances à Auteuil ». Et alors Antoine habite pas très loin de la place Jeanne d'Arc, qui était aussi triste apparemment à l'époque qu'aujourd'hui. Et il loue une chambre au premier étage d'un restaurant peint en rouge. Et c'est là qu'il rencontre un personnage important, qui est donc Marcel, que vous avez mentionné.
Rue du Chevaleret, il y a cette serveuse du restaurant qu'il aperçoit d'abord de loin, qui ensuite, il va établir un contact avec lui, contact qui va aboutir à des relations sexuelles récurrentes, et même une relation tout court, qui une sorte de forme presque un couple, mais un couple qui n'a pas d'avenir, et c'est d'ailleurs son charme, et c'est pour ça qu'Antoine Bloyer l'a choisi. Et il va y avoir ensuite l'appel à l'ordre, à la bourgeoisie, au désir d'ascension sociale aussi, que ne permet pas Marcel.
laquelle est une prostituée.
Absolument.
Et donc, comme vous dites, le désir d'ascension sociale, mais d'ailleurs à peine exprimé, il subit plutôt qu'il n'agit. Antoine Bloyer, il épouse la fille d'un chef de dépôt en 1890. Et Nizan est très très précis sur les dates. Il est nommé dans plusieurs endroits et là, il commence une vie de couple qui, pour lui, est une vie d'asthénie. Pour lui, Pierre, leur fils, dit « Vivre avec sa femme veut dire qu'ils font des comptes en commun ».
Comme vous dites, c'est important, je crois. Il subit, Antoine Bloyer, et même pas, et vous avez raison de dire que ce désir d'ascension sociale n'est jamais formulé, puisqu'il a très peu de conscience de lui-même, et c'est très clair, le narrateur le dit très clairement, parce qu'il est dans cette routine. Il dit que Antoine Bloyer, justement après son mariage avec Anne Guadet, qu'il s'enfonce dans cette confiture douceâtre d'habitude. Et il est pris dans ses habitudes, dans ses routines, desquelles il n'y a, pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure, il n'y a pas de liberté et que d'une certaine façon, une insatisfaction permanente.
Alors, il subit aussi, probablement du fait de sa femme, une intégration bourgeoise, ou plutôt petite bourgeoise, car leur fils note avec un certain sens sarcastique qu'ils ont un salon de style Louis XV et que sa femme, la femme d'Antoine Bloyer, fait de la philanthropie. Et alors, il faut dire qu'ils ont une enfant qui meurt assez jeune et qu'après la mort de cette fille, il y a ce fils Pierre, donc, qui raconte l'histoire. Alors, ce fils Pierre naît en 1905, comme Nizan, mais je ne crois pas qu'il faille y voir un signe. Car, racontez-moi un peu la proximité entre Antoine Bloyer et le père de Nizan.
La ressemblance, c'est
que, je vais vous répondre pour vous si vous voulez bien, c'est qu'il n'y en a pas au fond. C'est-à-dire que, car le père de Nizan, lui, s'est récupéré. Alors que, et c'est intéressant, à mon avis, du point de vue de la création littéraire, c'est-à-dire que Antoine Bloyer, lui, continue à rater, alors que le père de Nizan, c'était pas exactement le cas.
Enfin, il y avait quand même cette idée d'échec très présente dans le père de Nizan, et notamment avec ces anecdotes qui sont vraies, des promenades nocturnes du père de Nizan, comme Antoine Bloyer qui se promène, et d'ailleurs c'est au cours d'une de ces promenades parisiennes dans la nuit qu'il se rend compte qu'il doit mourir, et comment du coup la chute, la mort sociale d'Antoine Bloyer engendre la mort physique.
Nous allons maintenant entendre une chanson ouvriériste de 1888, Drill Ye Terriers Drill. Elle est de Thomas Casey et Charles Connolly. Elle porte sur la construction des voies de chemin de fer aux États-Unis. Terrier était le nom qu'on donnait aux ouvriers irlandais chargés du percement des tunnels.
Every morning at 7 o'clock, there's 20 terriers a-working at the rock. The boss comes along and he says, "Keep still and come down heavy on the cast iron drill, and drill ye terriers drill, and drill ye terriers drill. Always work all day for sugar in your tay, down behind the railway, and drill ye terriers drill. And blast and fire, and blast and fire." Well, our new foreman was Gene McCann. By God, he was a blaming man. Past week, a premature blast went off, and a mile in the air went Big Jim Goff. And drill ye terriers drill, and drill ye terriers drill. Always work all day for sugar in your tay, down behind the railway, and drill ye terriers drill. And blast and fire, and blast and fire.
Florence Desmouches, il y a une catastrophe à un certain moment pendant la guerre dans la vie d'Antoine Bloyer.
Absolument, cela survient dans la troisième partie du roman, où je pense qu'il est important de rappeler rapidement comment termine la deuxième partie du roman, quand c'est le paroxysme de l'existence d'Antoine Bloyer, tout va bien d'une certaine façon, et le narrateur finit par dire qu'on est à ce moment-là où le soleil est à mi-course dans le ciel et où on pense qu'il ne va pas décliner. Le narrateur insiste en disant que si, la chute est imminente. Et en effet, la troisième partie, c'est le début de la guerre, et l'atelier d'Antoine Bloyer fabrique des obus. Il y a une erreur de fabrication dont il est accusé et reconnu coupable. En conséquence de quoi, d'ailleurs, il s'en sort assez bien et le narrateur le précise, puisqu'il est muté et pas invité, accusé des traîtrises nationales.
Donc en fait, il est quand même dégradé dans la Compagnie des chemins de fer, il est nommé, il est muté dans un poste directeur des magasins où il n'a pas beaucoup de travail.
Et c'est là tout le problème, puisque justement ce travail qui l'occupait tellement, qui l'empêchait de réfléchir sur sa condition, tout de suite il n'y a plus rien. Le seul moment où Antoine Bloyer est heureux, c'est avec la naissance de Pierre Bloyer, justement, avec ses promenades quand Pierre, son fils, était enfant. Ensuite, il raconte que la conversation n'est plus possible. Il se retrouve dans une solitude où règne l'ennui et l'introspection inéluctable d'une certaine façon, où il s'en rend compte, Nizan a de très belles formules, mais il se rend compte que c'est un homme sans communion, qu'il ne sert à rien, que personne, son existence n'importe à personne. Et c'est là que tout s'effondre. Et qu'Antoine Bloyer surtout commence à réfléchir sur sa condition. D'une certaine façon, c'est le moment le plus important du roman et de la vie d'Antoine Bloyer aussi.
C'est important parce que aussi, fortuitement ou pas, mais à ce moment-là, les gens meurent autour de lui. Ses beaux-parents meurent, son père meurt. J'ai rappelé un peu avant que quelques années avant, sa fille est morte. Il est entouré de morts et ça n'éveille pas grand-chose en lui, sinon des angoisses, des hallucinations. Il cauchemarde lui-même en se voyant mort. Il se met à errer dans les rues. Il a des idées de suicide. En fait, le mot n'est jamais employé, mais il fait une dépression.
Oui, c'est vrai. En revanche, je pense que avant d'arriver à cette période, la mort a un rôle très important puisque les seuls moments où Antoine Bloyer prend conscience de sa situation, c'est lorsqu'une mort survient dans son entourage, c'est-à-dire celle de sa fille, mais aussi celle de ses deux employés un soir où il doit ramener les cadavres aux dès lors veuves. C'est là d'ailleurs que le mot de trahison, de traître survient, où il se rend compte, où il y a ce tiraillement entre de sa position sociale et surtout professionnelle, entre le cadre ou ses employés, et il est tiraillé. Et je pense que la mort fait partie de ces rares moments dans le roman où Antoine Bloyer expérimente une sorte de réflexion sur sa vie et sur les conditions sociales qui l'entourent, et professionnel, et sur sa place, surtout à lui, dans toutes ces structures.
En même temps, moi j'ai plutôt l'impression qu'il fait cette dépression précisément parce que l'analyse, il ne la fait pas. Puis il a des velléités d'analyse. Par moments, il évoque, il y a une phrase où il dit à propos de son fils, de Pierre, il dit son fils était comme la statue visible de toutes les années qui lui avaient échappé, mais il n'en tire aucune conclusion. Il a juste des intuitions et il n'a même pas de rêve, au fond, d'angoisse sociale d'avoir changé de classe.
Oui, c'est vrai. Je pense qu'il a les données pour la réflexion, mais il ne les fait pas. Et c'est pire encore, puisqu'il est une sorte d'âne de Buridan qui va mourir parce qu'il ne peut pas choisir entre rester ouvrier ou devenir petit bourgeois. Il est toujours dans ce tiraillement, sans vraiment choisir. Et donc, c'est le narrateur qui, d'une certaine façon, va choisir pour lui et assurer que le soleil va décliner.
Et alors, Antoine Bloyer meurt d'un arrêt cardiaque à l'âge de 65 ans, et c'est en 1929. Et finalement, on peut dire que sa vie a été une très lente extinction, comme une bougie. Ça a été une vague lumière, puis il y a eu quelques tremblements, et puis la cire a fondu, il s'est éteint.
Oui, c'est vrai. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'à la fin de sa vie, il y a quand même un semblant de lucidité sur cela, c'est-à-dire qu'il n'est rien dans le monde, et c'est cela qui le fait souffrir. Et lorsqu'il meurt, la suite de cet événement tragique lui donne raison, puisque c'est d'ailleurs raconté par le regard du fils, qui raconte avec un peu de cynisme les visites des voisins, de l'entourage, des proches qui viennent rendre un dernier hommage d'une certaine façon au défunt. Et sans vraiment de conviction, sans regarder le corps. Et je pense que le moment le plus important de cela, c'est le discours dommage qu'il lui fait par ses collègues, qui est insupportable pour Pierre Bloyer.
Les prénoms de Bloyer sont intéressants. Il s'appelle Antoine, puis Marie, puis Joseph. Donc ça veut dire qu'il vient d'une culture catholique. Sa mère était pieuse, on nous l'a dit, mais pas lui. Il n'exprime pas le moindre intérêt religieux. D'ailleurs, vous parliez de sa mort. On voit bien que l'office pour la famille n'est rien de plus qu'un rite social. Et c'est son fils, c'est toujours Pierre, qui fait les jugements que son père n'a jamais fait, qui relève assez sarcastiquement les voix vaniteuses des chantres et des prêtres.
Oui, mais c'est pour cela que Pierre Bloyer a cet avantage qu'il... Et c'est en cela qu'il ressemble d'ailleurs énormément à Paul Nizan. C'est en Spinoziste qu'il était quand il cherche les causes de son malheur et qu'il se rend compte que les causes ne sont pas en lui et qu'elles sont dans la société. Donc, d'où l'adhésion de Nizan au Parti communiste. Pierre Bloyer a les moyens, certes intellectuels, il est plus intelligent que son père, mais aussi les circonstances sociales font que, étant déjà dans un certain statut, il peut se permettre lui aussi de s'engager et d'essayer de changer le monde. Puisque c'était son mot d'ordre.
Ce qui est frappant, c'est qu'Antoine Bloyer n'a pas de conscience politique. C'est-à-dire qu'il travaille dans une entreprise, on le voit lire des journaux distraitement. C'est certes avant 1936, mais il y avait des syndicats, et de syndicats il n'est pas question. Donc il est dans la neutralité, là aussi, la plus complète.
Absolument, et il reste dans une sorte de relation toujours très affective, il n'y a que le sentiment dans ces relations, puisqu'il y a un autre événement, en plus de la mort, qui fait ressortir le tiraillement, c'est lors des grèves, où il se retrouve dans une sorte de no man's land entre les ouvriers et les cadres. Et en effet, à ce moment-là, c'est que de l'affect. Il n'y a que ce tiraillement. À aucun moment de une perception politique des choses.
Et ce qui est très frappant aussi, ça n'est pas exprimé par Pierre Bloyer, le narrateur, mais quand même on le voit, c'est qu'on le voit pendant des années avec le même livre de chevet. C'est-à-dire que c'est un homme qui, en plus, n'a pas de culture.
Absolument. Et pas n'importe lequel, qui montre encore une fois comment sa vie est réglée et jusque dans ses rêves, d'une certaine façon, puisqu'il lit toujours très peu, 2-3 paragraphes avant de s'endormir. Donc c'est la vie de George Stephenson, qui est l'ingénieur britannique qu'on considère comme l'inventeur des chemins de fer modernes. Et ça montre qu'il n'a pas de culture et qu'elle reste toujours, c'est toujours très monomaniaque, disons.
Antoine Bloyer, d'une certaine façon, pour moi, c'est une suite de La Bête humaine de Zola, mais une suite inversée. D'abord, il n'y a ni viol ni meurtre, c'est un roman assez placide, mais surtout, si Zola croit à l'hérédité, Nizan croit surtout à la fatalité. C'est pas la même chose.
Le lien avec Zola est assez clair. Cependant, il y a moins ce ton cru que l'on a chez Zola, moins sale, disons.
Ah pardon, je vous interromps, Zola n'est pas absolument pas sale. Zola,
je savais que ça allait vous plaire.
Non, Zola, ça je m'oppose à ça, Zola n'est pas sale. Zola est au contraire un obsédé de la propreté. Ça c'est les ennemis de Zola, dont les Daudet et les Goncourt qui ont passé leur vie à dire que Zola, il y a une phrase de Daudet qui disait « Zola ne sera jamais aussi content que quand il aura pu décrire le contenu d'un pot de chambre », c'est faux. Faux. Le mot propre et propreté dans Zola est permanent.
Absolument. Ce que je voulais dire par là, c'est que il y a, par exemple, des descriptions que l'on ne retrouve pas chez Nizan. Sinon, je suis d'accord avec vous. Il y a ce déterminisme chez Nizan. C'est pour ça, je pense que les enjeux sont pas les mêmes pour Zola et pour Nizan. Ils veulent pas, si toutefois leur littérature est là pour démontrer quelque chose, je ne pense pas qu'ils veulent démontrer la même chose.
Florence Zemmouche, que vous a appris le personnage d'Antoine Bloyer?
La chose qui me vient d'abord à l'esprit, c'est que Antoine Bloyer n'est pas l'histoire d'un échec ou n'est pas que l'histoire d'un échec. C'est aussi, paradoxalement ou pas, l'histoire d'une réussite. En fin de compte, Antoine Bloyer a réussi une ascension sociale, mais pas la sienne, celle de son fils. Et cela montre que l'ascension sociale, quand elle est possible, si elle est possible, à ce moment-là, elle prend du temps, elle prend le temps d'une vie et celle du père, là, en l'occurrence.
C'était Personnage en personne, le 66e.
Comme si j'étais assis.
Réalisation Clotilde Pivin, attaché de production Chouchan Djergaillan, prise de son Jean-Michel Bernot. Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.
La vie, le paradis acquis, c'était un grand jeudi. Tous les jours, paradis. De l'autre côté de la rue.